Néhémie chapitre 5, ce soir nous allons voir l'attaque numéro 4. On sait qu'il y a l'opposition. La première, c'était au début, la semaine dernière justement, au chapitre 4. L'attaque numéro 1, c'était la moquerie, ridicule. Et la défense, c'était la prière. La deuxième attaque, c'était l'attaque physique. Les armes, et là c'était l'action, la garde, l'état d'alerte, et en même temps il continue à travailler. L'attaque numéro 3, le découragement, c'était de continuer et à prier. Donc on avait vu ça la semaine dernière, la prière. L'attaque numéro 4, donc ici au chapitre 5, c'est un égoïsme interne. Il peut avoir l'opposition qui vient de l'extérieur, mais on voit ici qu'une attaque était de l'intérieur. Satan peut se servir des gens pour s'opposer à nous. Satan peut aussi nous attaquer de l'intérieur. Néhémie chapitre 5. Il s'éleva de la part des gens du peuple et de leurs femmes de grandes plaintes contre leurs frères, les Juifs. Les uns disaient, « Nous, nos fils et nos filles, nous sommes nombreux. Qu'on nous donne du blé afin que nous mangions et que nous vivions. » D'autres disaient, « Nous engageons nos champs, nos vignes et nos maisons pour avoir du blé pendant la famine. » D'autres disaient, « Nous avons emprunté de l'argent sur nos champs et nos vignes pour le tribut du roi. » Notre chair est comme la chair de nos frères, nos enfants sont comme leurs enfants, et voici, nous soumettons à la servitude nos fils et nos filles, et plusieurs de nos filles y sont déjà réduites. Nous sommes sans force, et nos champs et nos vignes sont à d'autres. Je fus très irrité. Là, c'est Néhémie qui parle, ils voient le problème, ils sont endettés à cause de dettes qui est très opprimant. Je fus très irrité lorsque j'entendis leurs plaintes et ces paroles-là. Je résolus de faire des réprimandes aux grands et aux magistrats et je leur dis, « Quoi ? Vous prêtez à intérêt à vos frères ?» Et je rassemblai autour d'eux une grande foule et je leur dis, « Nous avons racheté, selon notre pouvoir, nos frères, les Juifs, vendus aux nations. Et vous vendriez vous-même vos frères et c'est à nous qu'ils seraient vendus ?» Ils se turent, ne trouvant rien à répondre. Puis je dis, « Ce que vous faites n'est pas bien. Ne devriez-vous pas marcher dans la crainte de notre Dieu pour n'être pas insultés par les nations nos ennemis ? Moi aussi et mes frères et mes serviteurs, nous leur avons prêté de l'argent et du blé. Abandonnons ce qu'ils nous doivent. Rendez-leur donc aujourd'hui leurs champs, leurs vignes, leurs oliviers, leurs maisons et le centième de l'argent. » Du blé, du mou et de l'huile que vous avez exigé d'eux comme intérêt. Ils répondirent, « Nous les rendrons et nous ne leur demanderons rien. Nous ferons ce que tu dis. » Alors j'appelai les sacrificateurs devant lesquels je les fais jurer de tenir parole. Et je secouai mon manteau en disant, « Que Dieu secoue de la même manière hors de sa maison et de ses biens tout homme qui n'aura point tenu parole. » Si cet homme soit secoué et laissé à vide. » Toute l'assemblée dit « Amen ». On célébra l'Éternel et le peuple tint parole. Dès le jour où le roi m'établit leur gouverneur dans le pays de Juda, depuis la 20e année jusqu'à la 32e année du roi Artaxerxès, pendant 12 ans, ni moi ni mes frères n'avons vécu des revenus du gouverneur. Avant moi, les premiers gouverneurs accablaient le peuple et recevaient de lui du pain et du vin. Outre 40 cycles d'argent, leurs serviteurs même opprimaient le peuple. Je n'ai point agi de la sorte par crainte de Dieu. Bien plus, j'ai travaillé à la réparation de cette muraille et nous n'avons acheté aucun champ. Et mes serviteurs tous ensemble étaient à l'ouvrage. J'avais à ma table 150 hommes, juifs et magistrats, outre ceux qui venaient à nous de nations alentours. On m'apprêtait chaque jour un bœuf, 6 moutons choisis et des oiseaux. Et tous les 10 jours, on préparait en abondance tout le vin nécessaire, le jus de raisin. Malgré cela, je n'ai point réclamé les revenus du gouverneur parce que les travaux étaient à la charge de ce peuple. Souviens-toi favorablement de moi, ô mon Dieu, à cause de tout ce que j'ai fait pour ce peuple. Donc là, il y avait un temps de famine, il y avait des besoins, il y avait les pauvres qui ont emprunté de l'argent à leurs confrères. Et cela, ils en ont profité à exiger non seulement de se faire repayer, mais exiger de l'intérêt. Et là, avec la famine, c'était à peine suffisant, il fallait qu'ils s'endettent encore plus, quasiment, ils étaient au point de devoir se vendre en esclavage. Et donc, avec raison, Néhémie, ici, il se fâche. Il dit, franchement, quand nous avons racheté, selon notre pouvoir, nos frères, les Juifs vendus aux nations, on les a rachetés, ça veut dire qu'on a payé pour qu'ils ne soient plus esclaves des païens. Et vous, à l'interne ici, vous voulez vendre vos frères pour qu'ils deviennent esclaves et les vendre à d'autres juifs. C'est du n'importe quoi, c'est de l'égoïsme pur et simple. Et là, dans le début de l'Église, on voit complètement une autre approche. Néhémie était de l'esprit de le début de l'Église, Actes chapitre 4, verset 31. Actes 4, 31. Là, on se rappelle, dans Actes, on voit aussi un peu dans l'évangile de Jean, que ceux qui suivaient Jésus, ils risquaient l'exclusion de la synagogue, d'être exclus de la synagogue. Si vous voulez dire, perdre son travail, être exclu de la culture, de la société, être un peu comme Moïse, ostracisé, et puis rejeté. Donc, quand beaucoup se sont convertis dans Acte 2, ça ne le mentionne nulle part, mais on voit que cet arrière-plan-là, il y avait de l'entraide, beaucoup. Et ce n'était pas du tout forcé, c'était totalement volontaire. Personne n'était obligé de vendre quoi que ce soit qu'il avait ou de donner plus que s'il faisait travailler encore, etc. Mais verset 31, quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Là, ils venaient de demander à avoir de l'assurance, de parler comme ils se devaient, malgré les menaces. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, ils annonçaient la parole avec assurance. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartenaient son propre, mais tout était commun entre eux. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Une grande grâce reposait sur eux tous. Car il n'y avait pas parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs et des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et le déposaient aux pieds des apôtres. Et l'on faisait des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, qui signifie fils de consolation, lévite originaire de Chypre, vendit un champ qu'il possédait, apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. Donc, ils n'ont pas tous vendu toute leur maison, parce que là, il n'y aurait plus de lieu où aller. Et on sait dans le contexte qu'il y avait... Ils se réunissaient encore dans les maisons, etc. Un peu plus loin, ils se sont réunis où il y avait un lieu de prière chez la mère de Jean-Marc, etc. Donc, ce n'est pas que tout le monde a vendu tout ce qu'ils avaient, mais s'ils avaient des choses extra qu'ils n'avaient pas besoin, ils étaient libres et à ce moment-là, la plupart ici, sinon tous, jusqu'au chapitre 5. Chapitre 5, mais un homme nommé Ananias avec Saphira. Sa femme vendit une propriété et retint une partie du prix, sa femme le sachant, puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Puis Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du champ, du prix du champ? Là, Dieu a permis que Pierre le sache en tant que prophète, là, qu'il lui a averti. Il l'a vendu pour tel, et il donne tel, mais il dit que c'est tout le somme. Et Pierre, il s'est fait dire, Dieu lui a fait connaître que c'était un mensonge. S'il n'eût pas été vendu, ne te restait-il pas? Il lui dit, tu n'étais pas obligé de le vendre, ça t'appartenait, c'est complètement le tien. Donc on voit que ce chapitre 4, 32 à 37, on ne parle pas de communisme. Le communisme, c'est le gouvernement, la petite minorité qui se met au pouvoir, qui dicte à tout le monde, vous devez tous être égal, vous devez tous travailler d'une façon égale, tous avoir le même genre de maison, tout égal et tout partagé. Et là, c'est forcé. Ça, c'est pas correct. Ça, c'est une petite minorité qui profite de leur position pour imposer à tout le monde ce qu'ils disent être l'égalitarisme, mais c'est pas ceux du dessus, hein. Ils ne vivent pas comme la personne simple. C'est un mirage et un mensonge. Donc, ce n'était pas ici du communisme. C'était complètement volontaire. Il dit, s'il n'eût pas été vendu, ne te restait-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Si tu voulais faire un don, tu aurais pu prendre la moitié, tu aurais pu prendre un quart, tu aurais pu prendre 10%, importe. Peu importe, mais c'est toi qui, si tu veux faire un don, tu donnes ce que tu veux, mais tu as menti. Tu es venu en disant, on a vendu le terrain et on l'a vendu pourtant et on donne tout. Et en secret, là, ils se sont gardés. Et donc, ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Et Ananias, entendant ces paroles, tomba et expira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Les jeunes gens s'étant levés, l'enveloppèrent, l'emportèrent et l'ensevelirent. Environ 3 heures plus tard, sa femme entra sans savoir ce qui était arrivé. Pierre lui adressa la parole. « Dis-moi, est-ce un tel prix que vous avez vendu le champ ?»« Oui, répondit-il, c'est à ce prix-là. » Et il savait que le prix qu'il venait de donner comme don, c'est ce qu'il a demandé. Et il a dit « Oui, oui, mais il savait que ce n'était pas ce prix-là. » Alors il dit, comment vous vous êtes accordé pour tenter l'Esprit du Seigneur? Voici ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte et ils t'emporteront au même instant. Elle tomba au pied de l'apôtre et expira. Les jeunes gens étant entrés, la trouvèrent morte. Ils l'emportèrent et l'ensevelirent auprès de son mari. Donc, il y avait un souci d'entraide selon les besoins, mais c'était totalement volontaire. Donc, quand un partage est fait, c'est important de ne pas nourrir en même temps le sentiment que les gens peuvent peut-être avoir, hein, que tout m'est dû. C'était pas ça, c'était selon les besoins. Là, on voit que les gens, c'était pas « moi, j'ai besoin de ci, il faut qu'on me donne ça ». C'était plutôt « tiens, je vois que tu as un besoin et je t'offre ça ». Donc, il vaut mieux, si on a un besoin, se faire offrir que de développer un sens de « les choses me sont dues ». Donc, c'est important en tant que chrétien qu'on ne nourrisse pas le sens que des gens, que tout m'est dû. Parce qu'on a beaucoup de ça en Guyane, les gouvernements avec toutes les choses sociales, parfois les gens ils développent le sens que tout m'est dû. Et c'est important, autant qu'on veut partager en tant que chrétien, on doit faire attention de ne pas nourrir ça, mais qu'on développe en même temps l'aspect là, que ça doit être volontaire, ça doit être partage. Et si on se fait offrir quelque chose, très bien, mais ce n'est pas à nous de demander. Je fais un petit exemple. Quand on voyageait d'église en église, on se faisait parfois l'hospitalité. Les gens nous pourvoyaient une place pour les 2-3 jours qu'on était en visite de l'église. Et pour moi, c'était important. Si les gens disaient « utilise le téléphone », même pour tes longues distances, tout ça, vas-y, je te l'offre. Bon, voilà, je me suis senti à l'aise. Mais autrement, moi j'avais une carte d'appel, puis j'utilisais, même si à ce moment-là, il n'y avait pas de portable, puis c'est un service, ça devait appeler n'importe où inclus. Fait que peut-être qu'il y avait des longues distances, etc. Mais moi, je ne faisais pas la politique. Est-ce que ça vous dérange que j'utilise votre téléphone pour appeler et faire des longues distances? Je ne l'aurais pas fait parce que là, il se serait senti obligé un peu. Ça serait un peu ambitionné de ma part. Fait que moi, j'avais une carte d'appel prête à utiliser le téléphone, mais sans charge ou personne. Mais s'il me l'offrait, ben j'acceptais. Si je voyais que ça venait d'eux, ce n'est pas moi qui leur avais soufflé l'idée. Donc, c'est juste un exemple. Mais quand les gens offrent, mais pas être des demandeurs dans un sens. Donc, Néhémie chapitre 5, on voit ici que Néhémie, il voit là les gens veulent profiter les uns des autres dans leur propre, nation. Et au lieu de vouloir aider ceux qui sont dans un besoin légitime. Et là, c'était un besoin légitime, hein, c'était pas des caprices que les gens avaient là, c'était des besoins légitimes. Et, gloire à Dieu, ils ont annulé leurs dettes, ils ont annulé leurs intérêts, tout ça. Ah, ils ont passé à travers la famine en tant que peuple avec l'aide, etc. Et Dieu a pu ramener les gens à ne pas vivre selon un égoïsme interne. Ça, c'est exactement ce que Christ... Si on voit l'exemple de Jésus était celui qui n'a pas regardé à lui-même et ses propres intérêts, ni ses propres biens. 2 Corinthiens 8, 9. Si on regarde dans 2 Corinthiens 8, 9. Là, dans le contexte de chapitre 8, on parle de les dons que Paul espérait ramasser à Corinthe pour aider les chrétiens de Judée qui étaient dans une période de famine. Et donc, un besoin spécial. Et Paul avait encouragé les Macédoniens, Paul avait encouragé les Corinthiens. Les Macédoniens avaient donné comme promis. Les Corinthiens, ils avaient promis, mais en fin de compte, ils n'avaient rien ramassé. Alors, Paul les écrit pour dire, ce que vous avez voulu donner par vous-même, ben j'espère que vous allez vraiment le faire, qu'on ne soit pas comme pris à court. Là, on a annoncé qu'il y avait des dons qui venaient, parce que ça avait été promis, puis là, en fin de compte. Mais il donne la citation de ce que Jésus a fait. Car vous connaissez la grâce. Ben, on va commencer au verset 8. Là, je ne dis pas cela pour donner un ordre, mais pour éprouver par le zèle des autres, parce qu'il mentionne l'exemple des Macédoniens. Les Macédoniens, eux autres, ils n'étaient pas riches, mais ils avaient assez pour vivre. Ils n'étaient pas dans une période de famine. Mais n'étant pas riches, ils ont pris... Ils ont coupé la baguette un peu plus pour en donner une partie, etc. Ils se sont serrés la ceinture, pas pour au point de se mettre en péril, mais juste... des choses que, allez, on va serrer un peu plus la ceinture pour l'envoyer en Judée. Et Paul mentionne l'exemple des Macédoniens. Donc il dit, je ne dis pas cela pour donner un ordre, verset 8, mais pour éprouver par le zèle des autres, les Macédoniens, la sincérité de votre charité, de votre amour. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. Jésus-Christ, donc, a voulu nous enrichir. Et donc il s'est fait pauvre. Maintenant, Jésus n'est pas resté pauvre, Dieu l'a élevé en gloire, etc. Et aussi, dans le contexte, on ne doit pas voir ce verset-là comme « chouette, maintenant Jésus m'a enrichi et maintenant je peux apprécier la richesse que Jésus m'a donnée ». Il cite cela pour que nous puissions à notre tour choisir de sacrifier pour venir en aide et pour en enrichir d'autres dans ce sens-là. Donc le but, c'est qu'on puisse voir l'exemple de Jésus-Christ et vouloir la suivre nous-mêmes. Pas simplement pour dire, ah ben chouette, Jésus m'a enrichi, ah ben moi j'ai pas besoin de sacrifier non plus, donc c'est Jésus qui a fait tout le sacrifice. Oui, pour notre salut, mais l'exemple dans la vie, Jésus veut qu'on se mette en branle. C'est la même chose dans Philippiens 2, Jésus n'a pas regardé à ses propres intérêts, n'a pas regardé à sa propre situation, n'a pas regardé au fait qu'il était Dieu et dans la gloire divine du Fils de Dieu, égal à Dieu. Non, il n'a pas regardé ses propres intérêts, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, 2, verset 7, en devenant semblable aux hommes, et après s'être trouvé dans la situation d'un homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Par cela, donc, il a pourvu notre salut. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Il lui a donné le nom qui était au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire du Père. Et donc, tout ce chapitre-là, il y a des exemples de ceux qui ont accepté de se sacrifier. L'apôtre Paul, qui était prêt d'être sacrifié, ou la libation du sacrifice des Philippiens. Il y avait Timothée, qui était prêt à aller en voyage pour s'informer des Philippiens. Il avait Épaphrodite qui avait fait un voyage qui l'a rendu très malade, presque à la mort. Mais, et c'est pas si vous vous rappelez, dans Philippiens 2, 19, on l'avait vu l'année dernière, j'espère, il dit au verset 20, « Car je n'ai personne ici qui partage mes sentiments pour prendre sincèrement à cœur votre situation. Tous, en effet, cherchent leurs propres intérêts et non ceux de Jésus-Christ. » Donc, il n'y a rien de nouveau. Du temps de Néhémie, c'était la même chose. Chacun cherchait son propre intérêt. Et regardez, « Oh, ben tiens, des frères ici dans la nation, eh bien, moi, je peux m'enrichir avec. Ah, ben, désolé, il y a la famine, mais moi, je suis trop riche que ça ne m'affecte pas. Mais toi, je vois que ça t'affecte. Tu as besoin d'argent, je vais te prêter, mais tu vas devoir me le remettre, puis devoir me payer des intérêts. Et puis, ah oui. Hein. Et c'était moi. Au lieu que Néhémie dise, hé, la cause de Dieu, puis démontrer l'amour, ça fait partie de la même nation, le peuple de Dieu. Et Néhémie se cite en exemple que lui-même n'avait pas pris la paye de gouverneur qu'il aurait pu avoir. Il n'avait pas vraiment besoin de la situation, alors il s'est servi de cela pour venir à des besoins. Il ne dit pas ça au sens, regardez, je vais me péter mes bretelles, il le dit dans le sens de Paul. Paul aussi s'est dit, moi je suis, soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Jésus. Et donc, c'est pas dans le sens du... C'est, regardez, moi-même, j'ai dû apprendre à suivre Jésus. Alors, dans la mesure que j'ai appris, imitez-moi aussi. Et c'est dans cette optique-là que Néhémie se cite en exemple et que Dieu a béni l'exemple et l'esprit. Et les gens se sont ralliés pour dire, OK, on ne va pas continuer avec un esprit égoïste, mais on va rallier la cause, le peuple de Dieu, la cause de Dieu, l'amour fraternel et on va démontrer vraiment le souci de marcher comme Dieu veut qu'on marche. On va prier. Seigneur Dieu, merci pour l'exemple de Néhémie. Seigneur Dieu, merci pour cette attaque à l'interne que Satan utilisait l'égoïsme du peuple pour vraiment ralentir et pour vraiment amener une honte à l'intérieur même du peuple de Dieu. Et merci pour Néhémie qui, quand il a appris le problème, il a adressé la racine du problème qui était l'égoïsme et de vouloir profiter au lieu d'être prêt à y perdre du sien pour les besoins spéciaux qu'il y avait, pour l'entraide. Et Seigneur, merci pour l'exemple de Néhémie et du Seigneur Jésus principalement, Seigneur Dieu. Merci de l'exemple des Macédoniens, merci de l'exemple de Paul, merci de l'exemple de Timothée, merci de l'exemple d'Épaphrodite. Et aide-nous d'être dans cet esprit-là, mais l'esprit aussi dans Actes, Seigneur Dieu, de ceux qui étaient prêts à vendre ce qu'ils n'avaient pas vraiment besoin dans les besoins spéciaux à ce moment-là, de ceux qui étaient perdaient leur travail puis avaient eu grand besoin. Merci, Seigneur, que tu veux qu'on ait un cœur sensible. Et Seigneur, qu'on cherche à faire avancer ta cause. Merci pour ta parole. On te prie maintenant, prépare mon cœur pour ce temps de prière. On te prie au nom de Jésus.